Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Bonjour à toutes et à tous. 10 films qui ont changé le monde, 8e épisode, Shoah de Claude Lanzmann. Avec Arnaud Desplechin. Et Jean-Michel Frodon.
Przecież był dzieciak 13,5 roku miał, no to przecież to mógł, to śpiewał, no także ładny, bardzo ładny głos miał i śpiewał.
Il avait 13 ans et demi, il avait une belle voix, il chantait d'une façon très belle et on l'entendait.
Mały biały domek, nie pamięci twi. Mały biały domek, ciągle mi się śni. Okna tego domku cudnie w słońcu lśnią. Jakby się oczy przechodzili łzą.
Naprawdę, że jak ja usłyszałem, to serce mi zupełnie zadygotało. Mówię, to jest taka morderstwo.
Quand je l'ai entendu, mon cœur a battu beaucoup plus fort parce que ce qui s'est passé ici, c'était un meurtre. J'ai vraiment revécu ce qui s'est passé.
Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour Antoine.
C'est le tout début de Shoah qu'on vient d'entendre après un déroulant qui raconte combien, je cite, la réalisation de ce film a été une longue et difficile bataille. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit à l'écran pendant cet extrait qu'on vient d'entendre et qui est cet homme qui chante Arnaud Desplechin?
Cet homme, ça nous est dit, c'est important, il n'y a pas la voix de Claude Lanzmann, il y a un texte qui déroule mais sans la voix. Lanzmann a choisi de ne pas être le narrateur du film. Et on voit un homme d'un certain âge, Simon Sremnik, et il nous est dit qu'il était un enfant dans un camp d'extermination. Son travail était de piler les os et d'aller jeter la poudre d'os dans la mer. Et on le voit sur une barque qui chante une chanson. Et on voit les habitants du village qui se souviennent de la voix de l'enfant chanteur. Et il nous est dit aussi dans le texte d'introduction, donc il a été on lui a tiré une balle dans la nuque avant l'arrivée des Russes. Lui s'est retrouvé dans une soue à cochons. Il a survécu de manière miraculeuse et retourné et après est parti en Israël. Et Lanzmann écrit c'est là que j'ai découvert. Le verbe de découvrir est étonnant. J'ai découvert Simon Sremnik et je l'invite à revenir à Helmo. Et donc on voit cet enfant qui passe. Alors c'est une image qui est... C'est déchirant, hein. Moi, à chaque fois que j'entends ce début du film qui m'a tant marqué depuis sa sortie. Et c'est une image qui est, on voit des détails, on voit un passant sur un type comme ça qui est assis sur un talus pendant que la barque passe, etc. Et en même temps, c'est une image qui provoque des associations d'idées. Ce qu'on pense au Styx, au passage du fleuve des enfers, voilà, qui revient en enfer. Donc c'est les images qui ouvrent le film et peu après on verra Simon. Donc il y a cette introduction avec les Polonais qui se souviennent de cet enfant, des chansons qu'il chantait quand il allait pour faire cette tâche morbide. Et après on le voit qui entre dans une pâture avec Claude Lanzmann qui est à gauche cadre et qui l'accompagne. Et il arrive, il dit c'est là, je n'arrive pas à y croire, je peux pas témoigner, c'est pas là et c'est là. Et il a cette phrase qui est devenue une phrase culte de l'histoire du cinéma, Yad Assis Das Platz, oui c'est ici le lieu.
Parce que le film se passe au présent.
Tout est au présent.
Ça commence aussi par un carton, Jean-Michel Frodon, bonjour, qui dit « L'action commence de nos jours à Chełmno-sur-Ner, Pologne ».
C'est ça, et c'est tout ce qui va devenir le projet de Shoah que nous allons découvrir en voyant le film, et je dirais redécouvrir chaque fois que le cachet on le reverra, et qui a été dans une large mesure découvert part Claude Lanzmann lui-même dans le processus d'invention extraordinaire qui est la fabrication de Shoah et qui repose sur un très grand nombre de choix de cinéastes, alors qui ont des enjeux politiques, esthétiques, éthiques, etc., évidemment, mais qui sont donc des décisions de cinéastes et qui vont faire cette relation à la fois au présent, comme vous l'avez dit, et au lieu, comme vient de le rappeler Arnaud de Pléchin, qui est l'idée même de Shoah. C'est, on n'est pas dans la reconstitution, évidemment, on n'est pas dans l'archive, on est dans des effets de présent, et comment ce présent est habité, un mot possible, discutable aussi, mais possible, et hanté, par ce qui s'est passé à ces endroits-là où nous revenons et avec ces personnes-là que nous voyons et que nous entendons, puisque à la fois les corps, les visages et les voix sont décisifs pour cette opération, cette quelque chose qui a à voir avec c'est pas de la magie à proprement parler, mais c'est quelque chose de qui est au-delà de juste le contrôle qui va au-delà de ce qu'on fait d'habitude dans du documentaire, je vois, est un documentaire évidemment, et qui fait revenir, ben justement c'est difficile à dire, ça fait pas revenir les morts sont morts, ça fait revenir un rapport avec eux qui avait été enfoui par l'histoire.
Vous dites, Jean-Michel Frodon, Shoah est un documentaire, évidemment, c'est loin d'être évident, parce que quand le film sort, ce que dit Claude Lanzmann, c'est ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction du réel. Mm-hmm. Après, effectivement, le statut du film a changé, il est devenu documentaire, il est devenu presque un document, une archive aussi aujourd'hui, mais au départ, c'est une fiction du réel, et Arnaud Desplechin, la scène que vous venez de décrire, on pourrait parler aussi de celle fameuse d'Abraham Bomba dans le salon de coiffure, et de manière très presque affichée, un geste de mise en scène.
On sait par l'interview dans les cahiers du cinéma à l'époque, je me souviens plus, c'était Hervé qui avait fait l'entretien. On le sait aussi par une interview formidable dans la NRP, la Nouvelle Revue de Psychanalyse. Lanzmann insistait en disant c'est un train loué, c'est moi qui ai loué le train. C'est mon train, c'est pas un train documentaire. Il était très fier de tous ces gestes de cinéaste qu'il avait, que décrivait Jean-Michel, étaient très très importants pour lui, des choix de mise en scène. Je prendrai un autre, vous voyez, entre la question de documentaire ou fiction du réel, ou c'est un film réel, ou je botterai en touche en disant, vous voyez, par exemple, on pourra s'interroger, parce qu'il y a un personnage pas si singulier que ça, mais assez singulier quand même, qui est Rolilberg, l'historien, qui est celui qui aura été dont le livre La destruction des Juifs d'Europe aura été vraiment le guide de Lanzmann dans la fabrication du film.
Sorti en 1961, l'année même du procès Eichmann. Quoi. Oui, ce sont les deux grands moments qui fait qu'on commence à réaliser qu'il s'est passé quelque chose.
Tout à fait. Alors, il y a un historien. Est-ce que pourtant c'est un film d'historien? Non. C'est pas un film d'historien. Alors, il y a de l'histoire. Est-ce qu'il y a du savoir dedans? Oui, il y a du savoir. Est-ce que c'est un film documentaire? Je soutiens que non. Bien sûr qu'on en sort avec des bribes d'informations, de choses comme ça. Et c'est même, moi, je me souviens de la première projection, j'aimerais pas poser à la belle âme, mais la première projection à laquelle j'ai assisté, c'était au 3 Luxembourg, c'était en 85, avant sa ressortie en septembre au cinéma qui était à Saint-Germain. J'étais tout à fait dérangé par le film, c'est-à-dire je comprenais pas ce que je regardais. Est-ce que c'est un documentaire, est-ce que c'est un film historique, etc. Par exemple, la conférence de Wannsee, c'est un plan avec un zoom et c'est tout.
Sur le bâtiment.
Sur le bâtiment. Et il y a rien de. Et je me disais, mais donc le film va pas nous expliquer. Vous voyez, c'est pas un documentaire sur qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas ça qui se passe. Mais il me semble, on parlait des morts. Les morts ne vont pas revenir. Lanzmann disait, c'est un film sur l'incarnation, et il parlait de la résurrection. La résurrection, pour lui, la résurrection, c'est pas une résurrection au sens chrétien, c'est faire revenir les morts, il le disait plus tard dans un texte plus tardif, pour mourir avec eux, pour remourir à côté d'eux. Alors, je parlais de la figure de l'historien, Rolilberg, il va apparaître en tant qu'historien, en tant que frère aîné un peu de Lanzmann, celui qui le conduit dans ce dédale de papier, d'histoire et de choses comme ça. Mais aussi, Hilberg, c'est lui qui va prendre la voix de Tchernakov, quand il va lire le journal de Tchernyakhov, qui a fini par se suicider, qui s'occupait donc de...
Du ghetto de Varsovie.
Du ghetto de Varsovie, des enfants, qui voyant l'impossibilité que les enfants allaient à la mort, d'un coup supporte pas et se suicide. Et donc il faut bien une voix pour porter, pour faire revenir le suicidé. Les premiers sons qu'on entendait, Simon Srebnik, il est mort. Et on le fait revenir à la vie pour mourir à nouveau. Il y a une espèce de choses très tragiques et magnifiques qui se passent dedans, mythologiques, et qui a un autre accès à la connaissance, à mon avis, que la connaissance documentaire ou historique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du documentaire dans le film, bien sûr qu'il y en a, et bien sûr qu'il y a de l'histoire dans le film.
Mais l'intervention de Raoul Hilberg est très intéressante, Jean-Michel Frodon aussi, parce qu'on a l'impression qu'il donne comme un discours de la méthode à Claude Lanzmann. Il va lui dire, bon, moi, quand je dois aller faire des entretiens avec des personnes qui ont vécu la guerre, pour qu'ils me racontent, j'ai une méthode d'approche. Je leur demande des points de détail, je leur demande d'être très précis, et pour essayer de comprendre, non pas de comprendre, de décrire un processus logique pour quelque chose qui est incompréhensible. Et c'est un peu ce que fait Claude Lanzmann avec ce film.
Alors, Claude Lanzmann, d'une part, par rapport à comprendre le processus logique, hein, il y a la phrase qui n'est pas de lui, mais que Claude Lanzmann aura beaucoup, « Kein warum », il n'y a pas de pourquoi, et donc ça n'a pas pour visée de construire un régime d'explication. Ça a à nous donner accès à un événement dans sa singularité extrême et dans ses effets et ses enjeux au présent. Et ensuite, Lanzmann disait beaucoup qu'il se renseignait le plus qu'il pouvait avant de filmer avec les survivants et que par contre, il ne voulait rien savoir des autres avant de les rencontrer, les Polonais et les Allemands, pour l'essentiel, enfin, même pour la totalité des autres, puisqu'il fait quand même une distinction dans sa relation avec les gens qu'il rencontre, et que ce sont deux stratégies différentes qui visent, c'est ce qu'a dit Arnaud Desplechin, à atteindre quelque chose d'autre. Bon, moi je suis pas d'accord avec vous sur l'usage restrictif que vous faites du mot documentaire. Je pense que tout documentaire digne de ce nom est une mise en scène, et une grande mise en scène. Mais il y a des stratégies et des décisions, certaines très claires en amont, qui sont aussi nourries par son expérience. C'est pas le premier film de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, faut le rappeler, est d'abord principalement un journaliste, puis quelqu'un qui va... explorer le médium cinématographique comme lui ouvrant des possibilités nouvelles de compréhension du monde avec son premier film, Pourquoi Israël, et à partir duquel il va aussi se sentir en état, si vous, voilà, avec les ressources suffisantes pour se lancer dans cet immense projet dont va naître Shoah, puis un grand nombre de films qui seront les surjons du tournage de Shoah.
On en reparlera.
Jusqu'à la fin de la vie de Claude Lanzmann. Et parmi ces stratégies, il y a quelque chose qui a à voir avec la méthode de Raoul Hilberg, la méthode historienne, en fait. Ce que décrit Hilberg est assez, enfin, disons, un format classique de pratique historienne, mais énormément d'autres éléments qui, justement, tiennent au fait que c'est du cinéma. Je me souviens, évidemment, par provocation, j'avais demandé à Claude Lanzmann, dans l'entretien que j'ai fait avec lui, mais est-ce que ça aurait pu être un livre ? Et il se met très en colère, comme il savait bien le faire.
Mais
comment tu peux dire un truc pareil et tout ça ? Ça ne peut être qu'un film, et donc il faut qu'existe... Et alors je lui dis, mais pourquoi ? Il hésite beaucoup, et il dit « les visages ». C'est la première réponse, je m'en souviens comme si c'était hier, avec un long temps derrière, et après il dit les paysages, la voix, etc. Donc c'est l'incarnation, hein. C'est exactement, c'est tout ce qui fait qu'il y a de la chair, et que c'est par elle que ça passera, ce rapport à l'événement Shoah.
Exemple d'une séquence qui n'aurait pas pu être précisément dans un livre. On était à Chełmno à l'instant, on va dans un autre camp d'extermination, toujours en Pologne, celui de Sobibor.
Według wskazań z Niemców Personel polski zobowiązany był rozpiąć wagony w ustalonym miejscu.
Suivant les ordres des Allemands, les cheminots polonais étaient obligés de scinder les trains.
Widocznych tam zwrotnic dokonywano manewru i te wagony były wpychane.
Alors la locomotive prenait 20 wagons, allait vers la direction de Hau.
Tamtym bocznym torem przy tej rampie.
Et là, il y a un aiguillage.
Już na teren obozu.
Et ensuite, on poussait les wagons déjà à l'intérieur du camp sur l'autre voie qu'on voit là-bas. C'est là que la rampe commençait.
Alors donc, alors là, si je comprends bien, là on est à l'extérieur du camp, on revient là, on va pénétrer à l'intérieur. Là, si on compare Sobibor à Treblinka, la gare fait partie du camp pratiquement.
Jeszcze nie, ale idziemy w kierunku tym.
Tak, tak. Et puis alors, les... Là, là, ici, nous sommes à l'intérieur
ten
du
tor,
camp.
To już był tor wewnątrz obozu.
Alors, cette voie-là, elle se trouvait déjà à l'intérieur du camp.
Et c'est exactement la même.
Hmm? To jest po prostu ten tor,
tak,
prawda?
Tak, oui, nic
la...
tu nie uległo zmianie od tamtych czasów.
Alors,
alors là, là où nous nous trouvons, c'est ce qu'on appelle la rampe, c'est bien ça.
To nazywało się rampą, prawda?
Rampą, na której dokonywano rozładunku wagonów z ofiarami przeznaczonymi do zamordowania.
Oui, c'est la rampe où on déchargeait les victimes destinées à l'extermination.
Alors celle-là, à l'endroit où nous sommes, c'est là où 250 000 juifs ont débarqué avant d'être gazés, c'est bien ça.
Także tu właśnie wysiadło te 250 tysięcy ofiar, które potem zostały...
Celui qui désigne Claude Lanzmann, dont on entend également la voix, bien reconnaissable, celui qui lui désigne les limites du camp de Sobibor, à quelques mètres de la gare du même nom, qui existe toujours au moment du tournage, on imagine que c'est encore le cas aujourd'hui. Il s'appelle Jan Piwonski, il était aide-aiguilleur de cette gare pendant la guerre, et c'est vrai pendant tout le film, mais encore plus ici, même s'il n'y a plus rien à voir, parce qu'il n'y a plus rien à voir, il était essentiel d'avoir filmé ces entretiens sur les lieux, d'éprouver leur physicalité. Et là, c'est aussi quelque chose qu'invente Claude Lanzmann, Arnaud Desplechin.
Ben, ce qui est phénoménal dans cette scène, c'est, alors, on voit dans la scène, on voit c'est des plans plutôt larges, on voit Lanzmann et l'ancien aiguilleur et la traductrice, cette fonction de la traduction est essentielle.
On va en reparler, Barbara Janitsa.
Mais, et lui arpente. Il y a un art, le cinéma c'est aussi de la topologie, et il arpente avec son propre corps. Il y a l'inscription du corps de Lanzmann à l'intérieur du film. Je vous parlais par exemple de la présence de Simon Srebnik et du bourcadre quand il accompagne l'enfant chanteur, qui les bourcadre et qui le guide. Et il y a un art de se placer. C'est pour ça que je pensais dans cette scène, le rapprochement va peut-être vous paraître audacieux, mais je pensais à Chaplin. Vous voyez, je fais un pas, je suis vivant, je fais un pas en arrière, je suis mort. Et c'est son propre corps qui prend l'empan du désastre. Mais je voudrais mentionner, parce qu'il me semble que cette scène est aussi une métaphore de quelque chose qui s'opère dans tout le film. La destruction des Juifs d'Europe, c'est aussi un attentat contre la fonction même du témoignage. Quand je vous dis ça, je cite Shoshana Feldman dans un article qui m'a vraiment sauvé la vie quand j'ai vu le film, qui m'a aidé à me remettre sur pied pendant longtemps, qui est un texte que j'ai beaucoup étudié. C'est un événement, les bourreaux ont voulu que cet événement soit caché. On a besoin d'une enquête, ils ont voulu que ce soit hors de la vue. Et ces notions hors de la vue sont égrenées dans le film, dans un nombre de circonstances invraisemblables, etc. Les fours ont été détruits, les camps ont été détruits, les corps ont été dissimulés. Je racontais les corps transformés en neige, comme ça, qu'on va disparaître, ou en sable, qu'on va disparaître dans la mer. Et donc il s'agit, dans le film, de restaurer la fonction du témoignage. Et tout le film est construit autour de trois types d'interventions. Il y a les victimes, mais les victimes, ce qui aura choqué beaucoup certaines personnes de parmi les victimes, c'est les victimes uniquement qui étaient dans les Sonderkommando, c'est-à-dire ceux qui ont vu. C'est pas les victimes qui c'est les gens qui ont vu, c'est les gens qui étaient
au plus proche.
Il y a très peu d'apparitions des victimes de la Shoah qui auraient pu survivre, etc. Non, c'est vraiment les gens qui ont vu. Juifs. Il y a les bourreaux qui sont filmés et les spectateurs, les Polonais. Srebnik le dit, il dit j'arrive pas à imaginer que c'est lieu. Il l'a pas vu, il était trop proche de ça. Les Polonais, sous des modalités très très différentes, regardent ou ne regardent pas, ou détournent, ou ils voient et ils regardent pas. On leur dit, vous n'avez pas le droit de regarder, etc. Il y a la figure de Jan Karski, sur laquelle sûrement on reviendra.
On va revenir, oui.
Il y a des tas de figures de qu'est-ce que c'est d'être spectateur d'un événement qui ne devrait pas, qui ne devrait même pas avoir eu lieu, tant il est impensable. Et il y a les Allemands qui surtout ne veulent pas être vus, qui disent vous dites pas mon nom, etc. Et donc, cet attentat contre la fonction même de témoigner, il me semble que Shoah, Lanzmann arrive à restaurer cette fonction du témoignage après un attentat qui fait qu'on n'a pas su comment en parler, comment aborder dans l'immédiat après-guerre et pendant des années qu'il aura fallu attendre du temps pour pouvoir se réapproprier l'événement. Alors, vous voyez dans cette scène, il dit ici je suis du côté des morts, ici je suis du côté de la vie. Et il me semble que cette scène est aussi une métaphore du trajet auquel nous invite le cinéaste. C'est pas possible de témoigner de l'intérieur, c'est pas possible de témoigner de l'extérieur, mais moi je vais vous ramener à l'intérieur et je vais vous ramener à l'extérieur, parce que c'est le trajet de Karski, je vais vous ramener à l'intérieur du ghetto, je vais vous sortir du ghetto, et que c'est un mouvement que tous les spectateurs font dans le film, c'est de rentrer, et quand on rentre c'est tellement brûlant qu'on n'arrive plus à voir, et il faut ressortir. Alors du coup cette scène me semble assez, comme une métonymie plutôt qu'une métaphore de l'opération que le film opère.
Alors, ce qui est très intéressant aussi avec cette scène, Jean-Michel Frodon, c'est, on l'a entendu, il y a le temps de la traduction. Quand Claude Lanzmann parle avec des personnes qui lui parlent en anglais ou en allemand, Claude Lanzmann comprend, et donc on a des sous-titres. Mm-hmm. Et quand c'est, par exemple, du polonais, il ne comprend pas. Et il y a ce temps qui aurait pu, au montage, être ramené, être rendu efficace, comme on dirait, si ça passait à la télévision. Mais lui choisit de garder ce temps aussi, sans doute, parce qu'au montage, il ne pouvait pas faire autrement, puisque tout a été tourné avec une caméra 16 mm et une seule caméra. Et le temps aussi, et ça, je crois qu'il vous en parle, Jean-Michel Frodon, le temps de recharger le magasin de 11 minutes est presque aussi important que le temps de tournage.
Oui, on a beaucoup discuté de ces enjeux-là, y compris au moment où, notamment, on a fait l'entretien pour le livre Le cinéma et la Shoah, où il y avait se posé la question de est-ce qu'il l'aurait fait en vidéo, plus légère, où on n'a pas besoin de recharger les caméras, et disait jamais de la vie. De toute façon, il a toujours absolument revendiqué que les choix qu'il avait fait, soit par décision, soit par contrainte, étaient ceux qui étaient appropriés au projet de Shoah, à l'exclusion de tout autre. Et parmi tous ces choix, il y a ce rapport au langage et à la traduction. On pourrait tout à fait enlever la traductrice et sous-titrer. C'est ce qu'on fait d'habitude, avec des plans de coupe, la continuité de l'enregistrement, ce qui se joue, donc ce qu'on disait sur les visages, la présence dans l'enregistrement dont le cinéma est capable, y compris de tous les éléments non-verbaux qui participent de ce que nous recevons, nous, comme spectateurs, la continuité, l'ordre. Il dit il n'y a pas un plan qui soit monté avant alors qu'elle aurait été tournée après. Dans la totalité du film, c'est inadmissible, c'est un assassinat du temps. Et il y a volonté aussi de, il dit la tour de Babel, c'est cette histoire-là, elle a convoqué énormément de voix, il faut entendre la pluralité des voix, il faut les entendre, et puis perdre du temps, entre guillemets, en fait gagner pour approcher autre chose que... Alors, le premier degré du documentaire, si vous voulez, là, juste l'information, puisque l'information pourrait être dans les sous-titres, mais il s'agit de nous rendre sensibles à bien davantage que seulement à l'information, même si elle compte, par exemple, sur la topographie du camp, mais sur la manière dont des personnes ont vécu avec ça ou avec le souvenir de ça et qui peut s'activer de manière plus possible. Hein. C'est que des explorations de choses possibles. On va voir qu'est-ce qui arrive dans le délai qu'impose le fait de recharger la caméra, qu'impose le fait d'attendre que la traductrice ait traduit, etc. Et que tout ça, ce sont des ressources utiles à cette... construction, là le mot qu'employait Lanzmann c'était écriture, mais c'est pas une écriture de mots, c'est une écriture cinématographique, et de toutes les règles qu'il a inventées pour sa propre écriture.
Et puis il y a un moment un peu particulier dans le film, on parlait de la présence de Claude Lanzmann dans l'extrait qu'on vient d'entendre, à côté de Simon Srebnik, et puis il y a ce moment-là.
France Culture. Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Le 19 janvier 1942, le rabbin de Grabouf, Jacob Schulman, écrivait à ses amis de Lodz la lettre suivante. Mes très chers, je ne vous ai pas répondu jusqu'ici car je ne savais rien de précis sur tout ce qu'on m'a dit. Hélas, pour notre grand malheur, nous savons déjà tout maintenant. J'ai eu chez moi un témoin oculaire qui, grâce à un hasard, fut sauvé. J'ai tout appris de lui. L'endroit où ils sont exterminés s'appelle Chelmno, près de Dombie, et on les enterre tous dans la forêt voisine de Rouchov. Les Juifs sont tués de deux manières, par les fusillades ou par les gaz. Depuis quelques jours, on amène des milliers de Juifs de Lodz et on en fait de même avec eux. Ne pensez pas que tout ceci vous soit écrit par un homme frappé de la folie. Hélas, c'est la tragique, l'horrible vérité. Horreur, horreur. Homme, ôte tes vêtements, couvre ta tête de cendres, cours dans les rues et danse, pris de folie. Je suis tellement là que ma plume ne peut plus écrire. Créateur de l'univers, viens-nous en aide. Le créateur de l'univers n'est pas venu en aide aux Juifs de Grabouf. Avec leur rabbin, ils ont tous été tués dans les camions à gaz de Chelmno quelques semaines plus tard. De Grabouf à Chelmno, il y a exactement 19 kilomètres.
Si je ne me trompe pas, c'est un des deux seuls moments où est lu par Claude Lanzmann dans Shoah un document historique. L'autre moment, c'est en voix off, sur des images de la roue, un hallucinant roue, rapport d'un bureaucrate sur les améliorations à apporter à la construction des camions à gaz. Or, c'est Arnaud Desplechin, on l'a déjà un peu dit, un film qui se défie de l'archive, qui en tout cas refuse toute image d'archive. C'est pas Nuit et brouillard d'Alain René. Comment est-ce que vous la comprenez, cette séquence où Claude Lanzmann est face caméra, derrière lui il y a la synagogue de Grabouf?
Il y a deux moments où il bute sur une impossibilité. Il y a des textes qu'il a envie de donner à entendre, des voix qu'il a envie de donner à entendre. Et une fois, c'est Roland Hilbert qui joue le rôle, qui sort du rôle de l'historien pour donner à entendre une voix, la voix de Tchernakov. Et là, pour le rabbin de Grabouf, il faut le faire revenir. Et il y a cet art de faire revenir les morts, et avec une brutalité certaine, Lanzmann disait, pour les tuer à nouveau, mais qui ne meurent plus seuls, quoi, que je sois à côté d'eux. Et c'est ça que je sens. Alors, le ton de la voix est très neutre, il va pas jouer le truc, et c'est des mots qui doivent être entendus, et donc ça passe par lui. Mais, pour autant, quand il y aura des passages narrés, je pense par exemple au prologue dont vous parliez, l'ouverture du film, quoi, le carton n'est pas lu. Mais je pense également au sous-titre qu'il y a à la fin, quand on nous parle des survivants du ghetto de Varsovie. Il y a un long texte à la fin de la deuxième époque qui n'est pas lu non plus. Il n'est pas narrateur. Il rentre dans l'arène, quoi. Quand je disais que j'ai mis du temps à me remettre de sa première projection, je suis retourné en septembre pour le voir. Puis après, c'est un film que j'ai vu très souvent tout au long de ma vie. Il me semble, je disais, qu'il y a donc ces trois fonctions. Et le cas que vous venez de signaler fait exception quand Lanzmann prend la parole du rabbin Grabouf. C'est que attentat contre le témoignage, et les paroles sont séparées entre victime, bourreau et spectateur. Et il m'a semblé, et le film à l'époque parfois a fait polémique chez certains, parce que est-ce que c'était trop agressif envers les Polonais, pas assez agressif, trop, il y avait tout le monde commentait.
Enfin, le gouvernement polonais, ça lui a pas plu du tout.
Ça continue à commenter.
Il demande qu'on stoppe la diffusion du film.
Voilà. Je vois dans les Polonais une métaphore du spectateur, de la place à laquelle je suis invité. Alors, à moi de choisir les figures parfois abjectes, parfois bouleversantes, de ces gens qui étaient spectateurs et qui ne peuvent rien changer. Et il me semblait que ça reproduisait ce qui se passe dans une projection de cinéma. C'est, vous pouvez pas arrêter, le film il est déjà enregistré. Au théâtre, vous pouvez vous lever et interrompre le truc. Alors, vous me direz, au cinéma, vous pouvez toujours monter dans la cabine, aller frapper le projectionniste. Enfin, c'est plus rare, quoi. Et donc, les Polonais sont dans ce monde où ça se passe. Et le scandale, c'est que se passe quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, puisque pour Lanzmann, et pour beaucoup, c'est de l'ordre de l'inimaginable. Et donc du coup, je voyais dans cette fonction de spectateur une façon, je voulais passer par un trait personnel, c'est quand j'ai vu le film, je sais plus la date de sortie exacte, c'était
1985.
Mais c'était la première.
Mai 1985.
Et donc quand je l'ai vu en mai, après je vous disais, j'avais pas du tout un rapport simple au film, il y a des trucs, j'étais en colère, je comprenais pas, etc. J'ai tout perdu. Et j'allais voir mes amis et je leur disais, il faut absolument que vous alliez voir ce film. Et j'étais totalement dénué. Et ils me disaient, on connaît, on sait ce qu'il y a dedans. J'ai dit, non, mais vous savez pas. Et tout d'un coup, je leur disais, mais s'il y a un truc hyper précieux, vous allez apprendre des choses, etc. Mais on connaît mieux que toi, etc. On n'a pas besoin de ça, etc. C'est-à-dire que je me retrouvais dans la situation du témoin et de l'impossibilité, de la nécessité de témoigner de ce que j'avais vu. Et il me semble que c'est ce que Lanzmann a réussi à faire de manière artistique sublime, c'est à restaurer la fonction de l'art en tant que témoignage, mais à faire de chacun de nous, spectateurs, de dire vous avez un pouvoir de témoin. Et ce pouvoir de témoin, vous allez trébucher dessus, vous allez être des témoins maladroits, vous êtes des témoins gauches, vous êtes des témoins embarrassés. Mais vous avez été témoin de quelque chose, puisque vous avez vu les 9 heures du film, donc maintenant vous êtes comptable de ça. Et c'est ce truc-là où j'ai l'impression que Lanzmann a inventé une nouvelle manière d'être spectateur. Il a inventé ses spectateurs, comme les grands cinéastes, comme tous les grands cinéastes le font.
D'autant que juste après cette séquence qu'on vient d'entendre, Claude Lanzmann se promène dans les rues de Grabov, va voir des villageois qui habitent de très belles vieilles maisons. Et là, il y a l'approche de Lanzmann, c'est-à-dire qu'il, sur un ton presque badin, il leur dit « Ah, mais elle est belle, votre maison, vous savez d'où elle vient, depuis combien de temps vous êtes là ?» pour les amener, puisque ces maisons sont les anciennes maisons des Juifs de Grabov, qui, on vient de l'entendre, n'ont pas survécu à la guerre. Et là, c'est très ambigu. On a beaucoup reproché à Claude Lanzmann d'avoir montré des villageois russes, antisémites, etc. Ce que lui raconte ces villageois est beaucoup plus complexe que ça, à bien y regarder.
Tout à fait. Jean-Michel Frodon. Et c'est là aussi, j'ai envie de dire l'honneur du travail documentaire qui prend acte de ce qui advient, parce que ça n'est pas préparé. Et donc là, il était très clair, je ne voulais rien savoir de ces gens avant de les rencontrer et d'écouter la polyphonie la polysémie peut-être des sens divers qui émanent de ces gens-là et qui émanent dans ce qu'ils disent, mais aussi dans la manière dont ils se comportent, dans les regards. Il y a ceux qui s'en vont, il y a ceux qui veulent en redire un truc en plus, etc., et qui nous mettent en relation avec la complexité de ce qu'Arnaud Desplechin appelle la les positions du témoin, et qui sont aussi les nôtres, qui deviennent les nôtres, et qui est, encore une fois, de manière décisive, activée par la présence de Claude Lanzmann, puisque là, vous avez fait référence, c'est un moment important, là, au moment où on entend, où il lit le texte à l'image, mais il est très présent. Alors, il disait, puisqu'on lui a reproché de se montrer, donc il dit sur les 9 heures du film, il y a 40 minutes où je suis à l'image, c'est pas tant que ça. Mais et donc la réponse est non, mais vous êtes présent partout dans le film. Et il dit, mais évidemment, sinon c'est pas possible.
Il disait qu'il habitait ce film.
Voilà. Et ce que Arnaud Desplechin vient de dire en termes d'œuvre d'art, c'est-à-dire de puissance, de déplacement intime. Dont le film Shoah est porteur, ne peut advenir que s'il y a quelqu'un qui habite cette proposition à laquelle nous avons affaire. Et donc, il y a une nécessité absolue. Alors après, les modalités de la présence peuvent varier, et varient énormément à l'intérieur du film, mais par la voix, par le corps, par des différentes manières d'apparaître ou d'intervenir dans ce qui se déroule, qui ne nous laisse pas en paix avec une position, et je peux que reprendre et paraphraser un peu ce qu'a dit Arnaud Desplechin sur le malaise et surtout sur l'idée. Moi, j'ai dit la même chose avant de voir le film à l'automne 85 seulement. J'ai dit mais je la connais l'histoire. J'ai lu, ça m'intéresse dans une certaine mesure, elle m'a concerné, etc. Ça va quoi. Et justement, ça ne va pas et rien ne va. Et c'est cette expérience-là. Réactivée en permanence et par le film pendant qu'on le voit et parce que fait le film une fois qu'on l'a vu et aussi parce qu'a fait Lanzmann une fois le film fini, c'est-à-dire que comme tout le monde le sait, Lanzmann ne disparaît pas de la scène une fois son film terminé, il l'occupe et parce qu'il a des choses à dire et à faire qui sont suscitées par le fait d'avoir fait Shoah est le résultat d'un immense travail, mais Shoah le remet au travail et il va jamais arrêter pendant jusqu'à la fin de ses jours. Et donc toute cette énergie là, elle est condensée dans tous ces choix très particuliers, comme ceux que vous très très justement Antoine vous pointez, comme à un moment il faut apparaître et dire soi-même quelque chose face à la caméra, à un moment il faut marcher dans le paysage et devenir le sort d'arpenteur de ce monde qui est à la fois au présent mais habité d'autres présents, etc. Et que c'est cette longue dynamique qui fait la singularité du film Shoah.
Et il y a des moments où il faut aussi faire preuve d'invention et tricher un peu pour obtenir les images qu'on veut.
Fest im Schritt und Tritt und der Blick geradeaus. Immer fest und die Welt geschaut. Marschieren Kommandos zur Arbeit. Für uns gibt's heute nur Treblinka, das unser Schicksal ist. Drum haben wir uns auf Treblinka eingestellt in kurzer Frist. Wir kennen nur das Wort der Kommandanten und nur Gehorsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter leisten, bis das kleine Glück uns einmal winkt. Hurra! Sind Sie zufrieden? Das ist ein Original, es kann kein Jude heute mehr.
Vous écoutez France Culture, 10 films qui ont changé le monde, 8e épisode, Shoah, avec Arnaud Desplechin et Jean-Michel Frodon. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Arnaud Desplechin?
C'est terrifiant, c'est Chouchomel, c'est qu'on entend.
Franz Zuchomel.
Et qui est filmé, alors qu'on voit, il y a plein de genres, vous parlez de la scène quand il a Grabov et quand il faut avoir les, je pensais, et que là c'est un Lanzmann vengeur qui vient et qui pose des questions comme ça aux villageois qui ont l'air très sombres comme ça, qui ont pillé les maisons des juifs qui ont été exterminés, etc. Là, je voyais la première fois que je voyais les films, je pensais à Eastwood, vous voyez, dans L'Homme de Haute Plaine, vous voyez, il y a un côté comme ça contre le village avec les gens. Et alors là, c'est le film d'espionnage, et que tout d'un coup, c'est ce type qui veut se soustraire au regard, Chouchomel, qui fut le gardien de je ne sais plus quel camp, excusez-moi.
De Treblinka.
Il était à Treblinka. Et donc, il prend un, il y a un côté aussi merveilleusement romanesque, parce qu'il prend un nom stendhalien, je me souviens plus s'il se fait appeler Henri Bell ou s'il se fait appeler Lucien Leven, il parle sous un pseudonyme. Et il ment à Chouchomel. Chouchomel dit, vous n'allez pas dire mon nom, etc. Il dit, non, bien sûr, je vous ai pas montré, non, bien sûr. Évidemment que nous le voyons. Nous le voyons avec, derrière un écran. C'est-à-dire, nous-mêmes, on a de la difficulté à voir, et on sait pas de quoi on est le témoin, puisque l'essentiel de la scène est filmé dans un camion. Lui avait filmé, je crois que c'était avec Boviala, mais Jean-Michel sera mieux que moi, je crois que c'était avec une espèce de paluche.
C'est ça, la toute petite caméra qu'on peut cacher,
qui avait été inventée par Boviala et qui se tenait dans un sac. Et donc, c'est un plan volé. Et on le voit, et il y a un long dialogue comme ça, et Lanzmann l'incite à dire, le type d'ailleurs désire raconter les chants qu'on chantait à Treblinka. C'était super, il chante cette chanson.
C'est le chant qu'on obligeait à chanter aux Sonderkommando, mais lui dit, je le connais beaucoup mieux que les Juifs.
Oui, ouais. Et Lanzmann lui dira, est-ce que vous pourriez le rechanter, mais plus fort. Et c'est une image de terreur, comme ça, en noir et blanc, hein, puisque la paluche filmait pas en couleur. Et nous, on voit ça, c'est donc des images avec le balayage électronique, parce que la réception n'est pas très bonne. Et on a une image comme ça de une image de mort absolument terrifiante.
Mais qu'apportent ces séquences, parce que ce n'est pas la seule avec les Allemands persécuteurs, pourquoi il fallait qu'elle soit dans le film, d'autant que quand on écoute les survivants juifs persécutés, on croit ce qu'ils racontent, on les écoute tout de suite. Quand on a ce discours-là, on est en permanence parce que ce soit des bureaucrates, organisateurs des transports, que ce soit les gardiens des camps, ils essayent en permanence de minimiser leur participation, on n'a rien vu, on n'était pas au courant, et on est obligé de reconstruire un discours. Comment est-ce que vous voyez ces interventions dans le film, Jean-Michel Frodon ?
D'abord, il y a une dimension très technique dans certaines des interventions, où là, ils n'ont pas honte parce qu'ils ont bien fait
leur travail.
Ils ont bien organisé l'espace, le temps, les circulations, pour que ce soit le plus efficace possible, l'inclination des surfaces pour que ça marche le mieux possible, etc. Et donc, c'est une dimension de la terreur très importante et très liée à cette processus d'extermination, là, son lien à la technologie et à un idéal technologique accompli dans le crime de masse, qui est une des caractéristiques de la Shoah. Ça a été beaucoup documenté depuis. En même temps, je pense que c'était très important pour Lanzmann de dire que ce sont des gens qui ont fait ça. Et qu'il faut qu'à un moment, on ait de la présence humaine, de la présence physique, que c'est pas une espèce d'abstraction, c'est pas les nazis ou la décision des grands chefs à Wannsee, à la conférence de Wannsee qu'on a mentionné tout à l'heure. Et puis, après, ça serait arrivé par une espèce d'opération purement technique. Tout ce rapport à l'incarnation, hein, bon, on l'a employé, mais il faut le réemployer. C'est aussi incarné par ces vieux messieurs, maintenant, forcément, que nous voyons. Ce sont des visages, ce sont des mains, ce sont des regards qui ont aussi été acteurs et opérateurs de tout ce qui a entouré ce centre absent, hein, qui est le véritable enjeu de Shoah, c'est ce trou noir au cœur du film, mais auquel nous ne pouvons justement avoir accès que par des présences, et ces gens-là sont des présences indispensables, sinon on ne dit pas ce qui est arrivé.
Et puis il y a une présence sur la fin du film qui est courte, mais qui nous marquera suffisamment pour que, quand on le reverra plus tard dans un autre film, on en soit très ému.
France Culture, les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Now I go back 35 years. Now, I don't go back, you know. It's a matter of...
Cet homme, Jean, je tressaille encore, qui est assailli par des sanglots au moment où il s'apprête à replonger 35 ans en arrière, c'est Jan Karski. Jan Karski était résistant, il était courrier du gouvernement polonais en exil pendant la guerre. Il est allé deux fois, il est entré dans le ghetto de Varsovie, et d'ailleurs plus tard dans le même entretien, il va raconter une scène où il a vu des... Il était terré dans une maison, il voit deux membres des jeunesses hitlériennes parader dans les rues et tirer un coup de feu. Il va s'arrêter à nouveau. Il va s'arrêter, des larmes vont couler sur son visage. Alors, d'autres cinéastes auraient peut-être choisi de ne pas montrer ces moments-là, de ne pas montrer non plus le moment où Paul Schlepnik, Müller ou Bomba n'arrivent pas à poursuivre leur récit. Lanzmann montre que c'est important, Arnaud Desplechin, qu'il y ait ça dans le film. Il va insister avec Bomba, continuez, vous le devez, il le faut.
Le pouvoir des larmes, oui. C'est important. C'est une dimension importante. Oui, c'est la figure même du spectateur, du témoin. Alors, c'est un épisode passionnant. Ça aura été repris, mais sous un mode tout autre, après une polémique que j'avais trouvée inutile dans un autre film sur Yann Karski que Lanzmann aura réalisé pour Arte. Mais là, il s'agit de c'est ce type à qui arrive cette aventure étonnante. Le voilà contacté par deux juifs, un sioniste et un bouddhiste, et il sympathise tout de suite avec le bouddhiste, et il sympathise autour de... C'est ce qu'il nous dit, il dit... il avait l'air d'un noble polonais. C'est-à-dire qu'il reconnaît quelqu'un d'autre, quelqu'un d'identique à lui. Alors tout d'un coup, une amitié naît. Et il dit qu'il faut que vous voyez, parce que vous devez témoigner en Occident, et donc... témoignage par la vue, attentat contrôle des témoignages, je vous disais, à la suite de Shoshana Feldman, vous devez témoigner et ça va s'arrêter. Vous devez dire que on vous donne le pouvoir, si vous expliquez bien, si vous trouvez les mots auprès des Américains et des Anglais, on dira aux Allemands, voilà, que ça c'est interdit. Et c'est ça qu'on lui pose sur les épaules. Et lui va échouer. Il aura échoué, totalement. Voilà, lui il y va d'ailleurs deux fois, ce qui est assez intéressant dans l'analyse de Feldman, elle reprend ce point, il y va pas deux fois, il y va une fois, et tout d'un coup quand il rentre dans le ghetto, cet homme dont il disait qu'il ressemblait à un noble, le bundis qui ressemblait à un noble polonais, voilà que c'est un juif, voilà que tout d'un coup ses épaules tombent, voilà que, et il voit un état et il comprend plus, il dit c'était pas l'humanité. Là encore, la difficulté à témoigner, la difficulté à voir, il ne sait pas ce qu'il voit, il ne comprend pas ce qu'il voit, comme les victimes ne savent pas ce qu'elles voient, il ne comprend pas. Et donc c'est le spectateur par excellence, c'est vous sortant de ce film, si vous acceptez de faire le chemin des 9 heures, et vous retrouvant à la table de famille, et devant dire, j'ai vu quelque chose, ça vaut le coup d'y aller. Alors lui, il a vécu en grand, si vous laissez pas une expérience juste au spectateur. Si on lui a dit, tu peux sauver 6 millions de personnes, il a raté. Donc le poids de la culpabilité est un petit peu lourd sur ses épaules. Et c'est une scène absolument déchirante, et qui... Oui, c'est éblouissant. Et le fait que Lanzmann ne soit pas effrayé par... c'est quel personnage qui sourit tout le temps
C'est pas Schlepnik.
Oui, c'est ça. Mmh. Et Lanzmann lui dit, mais pourquoi il sourit tout le temps? Il dit, parce qu'on a survécu. Mais c'est plus le même. Il est mort. Et continue à vivre après la mort. Et cette vie après la mort que discute, c'est ce qui se passe au tout début. C'est quelqu'un qui était mort, tué dans cette auge à et survivant dans une auge à cochon. Il revient à la vie. Mais ce qu'il a fait, c'est une expérience ultime. On ne revient pas. Alors bien sûr, la vie, elle se poursuit mécaniquement. Mais la personne que vous étiez au moment où vous êtes exterminé, elle est morte. Et donc, il faut les faire revenir pour revivre ça. Et Lanzmann n'a pas peur de... Quand le sentiment vient assaillir les personnes interrogées, interviewées ou en discussion, il n'est pas effrayé. Souvent, il y a un retour. Vous parliez de la scène de Bomba. Bomba, il le connaissait déjà. Il avait déjà filmé, disait-il. Et puis voilà qu'il. Et ça, c'est la scène du coiffeur, lui qui se retrouvait coiffeur. Dans mon souvenir, c'est à Auschwitz qu'il était. Et il va le faire et il n'y arrive pas. C'est pas possible. Et Lanzmann dit, il le faut.
Il le faut. Et on parle de Shoah comme un film de 9 heures, on pourrait dire que c'est aussi un film beaucoup plus long, parce que non seulement Lanzmann va accompagner Shoah, vous l'avez dit Jean-Michel Frodon, jusqu'à ces derniers jours, mais il y aura d'autres films issus des 350 heures de tournage de Shoah. Il y a Un vivant qui passe, il y a Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures, Le rapport Karski, dont vous venez de parler, Arnaud Desplechin, Le dernier des injustes et Les quatre sœurs. Est-ce que, à présent, Jean-Michel Frodon, il faut considérer que Shoah, ce n'est plus simplement Shoah, c'est tout cet ensemble?
Alors, non.
Non, moi je suis d'accord, je trouve pas.
Shoah, c'est Shoah. Et Claude Lanzmann était très clair que ce qui n'est pas dans Shoah n'y avait pas de place. Et que le film dure ce que doit durer. Tout le monde aura compris que c'est long, hein, 9 heures au cinéma. On comprend très bien. Donc c'est pas, quand il s'arrête, il s'arrête pas parce que il trouve que ça va être trop long. Il s'arrête parce que il y a les éléments qui font le film qui s'appelle Shoah ont un sens, un projet, une énergie intérieure qui lui est propre. Pour faire Shoah, Lanzmann a été amené à faire un gigantesque travail d'enquête et de recueil de témoignages, dont un très grand nombre n'avait pas leur place dans le film Shoah, mais n'en était pas dépourvu d'intérêt, très loin s'en faut pour autant. Et c'est ce qui va ensuite nourrir. C'est-à-dire qu'il y a un film, une œuvre d'art, une œuvre d'art majeure qui est le film Shoah, et puis il y a une archive gigantesque constituée dans le but de faire Shoah, et qui ensuite va nourrir des films qui sont pas, qui sont encore une fois pas...
Ils sont pas dénués d'intérêt, tout de même.
Non, non seulement ils sont pas dénués d'intérêt, mais c'est pas juste, on a des trucs intéressants, donc il va bien falloir les utiliser d'une manière ou d'une autre, qui répondent chacun à un projet de cinéma. Claude Lanzmann pensait la forme en permanence et les enjeux formels, et chacun de ces films-là que vous avez cités a un centre, un cœur, un moteur questionnant, douloureux, polémique, si on veut, ou qui en tout cas vise à déplacer quelque chose chez ceux qui les verront, différents, y compris celui qui est fait de l'assemblage de 4 films, le dernier, 4 sœurs, où bien sûr il y a chacun des films a une puissance émotionnelle et une force extraordinaire. Il y a 5 films. Il y a chacun des 4 films et le film qui les réunit tous les 4, dans l'ordre où il les réunit tous les 4, comme une construction absolument pensée de bout en bout par Claude Lanzmann. Et donc, il y a ces logiques-là, dont une des caractéristiques, on pourrait dire, un fil qui en partie les relie. Arnaud Desplechin en a déjà beaucoup parlé, mais c'est majeur. Et puis, je sais pas, quelqu'un comme Annette Vivorca, par exemple, qui est cette question du témoin. Et là, le premier de ceux qu'il va réaliser avec des images tournées pour Shoah, un vivant qui passe, est un peu la position inverse du mauvais témoin, du témoin qui ne voit pas, qui est en position de voir. C'est ce médecin suisse envoyé par la Croix-Rouge qui visite Auschwitz et qui revient en disant à peu près tout va bien. Ça interroge quand même des tas de situations actuelles et personnelles et quel rapport nous avons avec des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui, au moment où nous parlons dans notre monde, aussi sur qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on dit, et d'autant plus, c'est très important, le comportement humain de Claude Lanzmann face à ce médecin, ce bourgeois suisse qui surjoue presque ça, il est dans son grand fauteuil, etc. Et Lanzmann ne le lâche pas et ne l'insulte jamais, mais essaye de nous faire approcher le plus près possible des processus qui font que ce type, qui n'est pas un salaud d'emblée, protéger la machine d'extermination nazie par la position qu'il occupe et les choix qu'il va faire. Et ce travail-là, ça nous le fait faire à nous aussi, et donc on retrouve cette... là, je crois que le mot juste, c'est maïeutique quand même, cette maïeutique qu'est chaque film de Lanzmann qui nous remet au travail et nous accouche de nos propres questions et de nos propres éléments de réponse, pour autant qu'on en ait.
Arnaud Desplechin, un dernier mot sur ce qui suit Shoah.
Sur ce qui suit Shoah. Non, je pense c'est 10 films qui ont changé l'histoire du monde. Shoah totalement. C'est celui des, je ne connais pas le reste de la sélection, mais vous voyez, pour une chose très, les Américains continuent à dire Holocauste. Moi j'ai été élevé, on disait Holocauste. Hilberg déplacé en disant la destruction des Juifs d'Europe, ce qui est un peu plus long à dire. Voilà que Lanzmann choisit ce titre, qui est un mot hébreu, qui sans son article Shoah simplement signifie catastrophe, désastre, voilà. Et maintenant, c'est comme ça qu'on appelle. Vous voyez, ça a changé complètement la position des gens par rapport. On a pu récupérer quelque chose que nous avions perdu, on l'a récupéré avec toutes les douleurs et les conflits que ça peut avoir. Hein. Ça fait pas du tout, c'est pas du tout un film unanimiste. Où, vous voyez, ça nous met tous en douleur. Parler d'Un vivant qui passe, qui est un film d'une telle complexité, qui était repris au théâtre cette année, que j'ai vu, qui était un spectacle merveilleux et qui pose des questions vraiment insondables. Mais ce film-là a changé notre perspective totalement. La face du monde en a été changée, quoi. Et c'était par la puissance de l'art. Et par la puissance de l'art cinématographique. Et ça, moi, je trouve ça... vous voyez, par ce dont on a peu parlé, parce que c'est pas l'objet, mais c'est la beauté des images, la perfection du montage, cette attention dont parlait Jean-Michel au grain de la voix. Enfin, tous les outils du cinéma sont... vous voyez, c'est cette scène de bal qui est improvisée... tout d'un coup, je vous disais qu'il y a beaucoup de genres cinématographiques qui se mêlent dans le film. Tout d'un coup, on voit un couple d'Allemands qui danse dans une espèce de bal maudit, et qui est comme une scène onirique à l'intérieur d'un film très documentaire, comme le disait Frodon. Et tout ça a bouleversé les gens, un tout petit peu à contre-temps. Parce que quand le film est sorti, le film a marqué quand même beaucoup. Dans les journaux, plus que dans les revues, il me semble. Et puis, peu à peu, le film est monté à la conscience. Mais j'ai l'impression que Shoah a cinématographiquement, artistiquement, montré la montée à la conscience d'un impensé, de quelque chose qui était impossible à penser après la guerre. Et les historiens nous y ont aidés, Hilberg le premier, les juristes aussi. Bien sûr, le procès à Eichmann, mais aujourd'hui, je pense à Philippe Sands ou à des gens comme ça. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est l'art cinématographique qui nous a permis de nous réapproprier un monde aussi douloureux soit-il.
Merci, on se quitte sur un beau moment cinématographique du film aussi. Très brève apparition dans Shoah, Gertrude Schneider.
Que j'aimerais commenter parce que c'est une chanson de... On voit une mer, on voit d'abord un paysage désolé, puis la mère de Gertrude Schneider qui pleure. Et sa fille à côté chante une chanson, et c'est une chanson d'amour en yiddish qui se retrouve être là encore la métaphore de ce qui va voir. Et juste après, c'est le final sur le ghetto de Varsovie, et les mots que je t'écris ne sont pas écrits avec de l'encre mais avec des larmes. C'est si dur de réparer ce qui a été détruit. Ah, tu vois les larmes, la faute ce n'était pas la mienne, parce que Adzoy Mousse Zain, c'est comme ça que ça devait se passer.
Jahren die beste geendigt sich und schon verfallen nicht zu werden. Schwer ist zu verrichten, was ist zerstört und schwer ist zu verbinden unsere Liebe. Ascho die Tränen deine, die Schuld ist nicht meine, weil Asoi muss sein, Asoi muss sein, Asoi muss sein. Wir müssen beide sich zerscheiden. Asoi muss sein, Asoi muss sein. Die Liebe endigt sich von beiden. Zu gedenkst du, wenn ich hab dich gelassen den Weg. Mein Geier Lot gesagt, ich muss von dir weg. Weil in den Weg will ich schon kein Moment mehr nicht sterben. Weil Asoi muss sein.
Merci Arnaud Desplechin, merci Jean-Michel Frodon pour revoir Shoah. Le film est disponible en coffret DVD, édité par Why Not Productions. Et puis pour en savoir plus, la littérature sur le film de Claude Lanzmann est évidemment immense. On recommande, pour élargir encore le champ, le cinéma et la Shoah, un art à l'épreuve de la tragédie du XXe siècle, que vous avez dirigé Jean-Michel Frodon et auquel vous avez participé Arnaud Desplechin. C'est coédité par les Cahiers du cinéma et la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Cette émission était préparée par Marceau Vassy et Julien Moinard et réalisée par Vivian Lecuivre.